Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre. Cette semaine encore, nous sommes ensemble de 14h à 14h56, mais attention, à compter du 6 janvier 2016, Planète Terre sera diffusée chaque mercredi de 16h à 16h56. Alors, cet avant-dernier rendez-vous de l'année 2015 s'insère, on vient de l'entendre, dans une double programmation de fin d'année sur France Culture. Tous les jours cette semaine, à 14h, nous sommes en partenariat avec le magazine Science et Vie, car les 5 émissions de Culture Science commémorent le centenaire de la théorie de la relativité générale. Autant dire que nous évoquons un héros des sciences, Albert Einstein, une des figures de la série d'émissions que consacre France Culture aux héros et aux héroïnes, et ça c'est jusqu'à dimanche. Alors pour sa part, la contribution de Planète Terre se focalise sur le GPS, car le saviez-vous, sans Einstein, pas de GPS. Alors, toute personne qui tient à sa culture générale sait que grâce à la théorie de la relativité générale, nous comprenons les trous noirs et le Big Bang. Mais c'est vrai qu'on sait moins combien la relativité générale a révolutionné notre vie quotidienne. Pensez donc aux smartphones, à vos sorties, aux hébergements que vous recherchez dès lors que vous n'êtes pas chez vous, à vos trajets, aux transports, à vos localisations, voire à votre orientation. Sans la théorie générale, le GPS, cet acronyme pour Global Positioning System, qu'on traduirait en français par géolocalisation par satellite, sans la théorie de la relativité générale, donc sans Einstein, le GPS n'existerait pas. Or, les interfaces cartographiques sont plus que des outils pour se repérer. Elles deviennent centrales dès lors qu'on les transporte partout avec soi, ce qui est devenu le cas de beaucoup de gens, et qu'on lit le monde à travers elles. Et de même, pour prendre un autre exemple cher aux géographes et à tous ceux qui aiment les géosciences, c'est grâce au GPS qu'on lit la tectonique des plaques et qu'on comprend les séismes. Bref, sans Einstein, pas de GPS, c'est bien le sujet de Planète Terre cette semaine. Alors, démonstration avec mes trois invités. Tout d'abord, Pierre Spagnou, qui est ingénieur, professeur à l'ISEP, l'école d'ingénieurs du numérique. Il est l'auteur de deux ouvrages que je recommande à tous. D'une part, de la relativité au GPS, ça ne pouvait pas mieux tomber, quand Einstein s'invite dans votre voiture, paru chez Ellipse en 2012, et suivi deux années plus tard de l'histoire de la physique racontée par votre smartphone, toujours chez Ellipse. Bonjour Pierre Spagnou.
Bonjour.
Thierry Joliveau, pour sa part, est enseignant-chercheur en géographie à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Certains auditeurs se rappellent peut-être qu'il était déjà venu lorsque nous avions parlé des cartes numériques, car Thierry Joliveau est spécialiste des systèmes d'information géographique, ce qu'on appelle dans notre jargon les SIG. Et il est également spécialiste de cybergéographie. Bonjour Thierry Joliveau.
Bonjour.
Et merci d'être venu depuis Saint-Étienne et Lyon aujourd'hui. Enfin, Pierre Briolle. Pierre Briolle est géophysicien. Il est directeur du département des géosciences de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. C'est un petit peu moins loin de la maison de la radio que ne l'est l'université de Saint-Étienne. Pierre Briolle est chercheur au CNRS et au laboratoire de géologie de l'ENS. Bonjour Pierre Briolle.
Bonjour.
Et merci donc d'être avec nous. Alors c'est très intéressant, vous êtes tous les trois venus par des moyens de transport qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Pierre Briolle, vous êtes venu en vélo, mais peut-être avez-vous quand même utilisé un GPS. Tandis que vous, Thierry Joliveau, vous êtes venu en train, puis en bus. Mais je sais même que vous avez utilisé votre GPS, car pour annoncer votre arrivée, vous m'avez envoyé votre itinéraire géolocalisé sur CityMappers. Et enfin, Pierre Spagnou, vous êtes venu en RER. Voilà, donc, et là aussi, vous avez dû utiliser, disons, les informations données par la RATP et la SNCF pour savoir combien de temps allait mettre votre train. Bref, tout ça pour dire qu'on sait bien que ça soit sur notre smartphone ou sur une voiture ou dans un train ou sur un vélo, notre position est maintenant géolocalisée, déterminée à la rue près, c'est-à-dire à 10 mètres près. Alors comment cette prouesse s'explique-t-elle? Puisque je crois qu'avant de faire le lien avec la relativité générale, ça serait bien qu'on sache comment fonctionne le GPS. Pierre Spagnou.
Oui, donc effectivement, le fonctionnement, dans ses grandes lignes, il repose sur, en fait, les signaux radio que nous envoient des satellites, les satellites GPS. Donc aujourd'hui, on a au minimum 24 satellites qui tournent autour de la Terre, donc à une altitude moyenne de 20 200 km et une vitesse moyenne de 14 000 km à l'heure. Et donc, en permanence, ces satellites GPS envoient donc des signaux radio en direction de la Terre. Et donc, à la charge des récepteurs GPS, ceux, par exemple, qui équipent nos smartphones, de recevoir ces signaux et de les exploiter de la façon que je vais décrire. En fait, ce qui est important de...
Dans tous les cas, on sait d'ores et déjà qu'il faut à la fois des satellites et des récepteurs.
Voilà, il faut déjà
Au moins deux segments.
Absolument. Donc les récepteurs GPS, leur nom l'indique, ne font que recevoir des données. Hein, on n'émet aucun signal en direction des satellites avec les récepteurs GPS. Dans ce fonctionnement.
Heureusement, si on se mettait à perturber les satellites depuis la Terre.
Exactement, ce sont les stations au sol, réparties un peu partout sur la Terre, qui vont se charger d'échanger des signaux avec les satellites. Donc le principe de base consiste à estimer la distance entre le récepteur GPS et le satellite qui vient de nous envoyer son signal. Donc comment fait-on pour cela ? Eh bien, on se sert du temps d'émission du satellite, donc que l'on connaît dans son message, et du temps de réception, qui est celui enregistré par l'horloge de notre récepteur.
Donc, sachant que, hein, vous venez de nous le dire, les satellites sont à 20 000 km.
Voilà. Donc effectivement, le signal met 20 200 km pour nous parvenir. Après, il peut être plus ou moins oblique, suivant la position du satellite, mais il met au moins il parcourt cette distance. Et donc, cette distance, elle est donc simplement estimée comme étant le produit de la vitesse du signal, qui est, dans le vide, égale en gros à 300 000 km par seconde, puisque c'est la vitesse de la lumière. Et on multiplie cette vitesse par la durée du trajet, qui est simplement égale à la différence entre le temps d'émission qui nous est fourni par le satellite, qui a été enregistré par l'horloge du satellite, et le temps de réception de l'horloge du récepteur. Alors, ça nous donne la distance.
Et pourquoi il faut 4 satellites?
Alors, en fait, donc, quand on a déjà 3 satellites, on sait donc que le récepteur GPS est à la surface de l'intersection des surfaces de 3 sphères. Chaque sphère étant donc centrée sur la position du satellite, de l'un des satellites, et le rayon de cette sphère étant égal justement à la distance qu'on vient d'estimer. Et donc, l'intersection de la surface de 3 sphères, ça nous donne 0, 1 ou 2 points. Donc ici, on a 2 points dont il est facile, en général, d'éliminer un point, qui en général ne correspond pas d'être aberrant. Et le quatrième satellite, en fait, nous sert en fait à estimer l'erreur sur l'horloge du récepteur, qui ne peut pas être aussi précise que les horloges à bord des satellites GPS.
Donc il corrige en fait.
Voilà, c'est une façon de caler l'horloge du récepteur sur celle beaucoup plus précise des satellites. Et donc c'est la raison pour laquelle on a besoin au moins d'avoir 4 satellites, et c'est aussi la raison pour laquelle la configuration de ces satellites, leurs orbites respectives sur des plans inclinés, etc., a été déterminée de façon à ce qu'il y ait toujours un minimum de 4 satellites en visibilité depuis n'importe quel point du globe.
Alors,
donc, voilà le principe de base.
Voilà le principe de base, mais peut-être passons immédiatement à une application pratique, puisque vous me l'indiquiez en arrivant, Pierre Briolle. Vous êtes venu en vélo, c'est pour ça que je racontais cette anecdote, et en venant en vélo sur les berges de la Seine, entre donc l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui se trouve sur la montagne Sainte-Geneviève, et la maison de la radio, vous avez été rendre une petite visite à des collègues à vous, ceux qui sont embarqués sur le fameux navire Tara, ce navire très connu pour ses explorations et observations scientifiques, qui est actuellement à quai à Paris, et vous avez été les voir. Pourquoi ? Parce que vous avez placé sur leur bateau un GPS. Alors, pourquoi et comment ça marche ?
Oui, donc effectivement, il y a un peu plus de 2 ans, j'avais placé une antenne sur leur bateau, sur Tara. Et donc, aujourd'hui, je suis allé dire bonjour. Et j'ai vu que l'antenne était toujours là. Et cette antenne a servi 2 fois.
Alors, vous dites une antenne. Est-ce que vous pouvez essayer de nous la décrire un petit peu pour qu'on ait une idée de à quoi ça ressemble un récepteur GPS dès lors qu'il n'est pas dans un smartphone, mais qu'il est utilisé par des scientifiques du CNRS ?
Oui, alors, compose de deux éléments, une antenne et le récepteur qui sont reliés par un câble. Sur Tara, le câble fait à peu près 20 mètres. Et l'antenne a un diamètre d'une vingtaine de centimètres. Et elle est fixée sur le pont arrière du bateau.
Et elle mesure combien en hauteur à peu près?
Elle fait à peu près 5 cm d'épaisseur. C'est une petite soucoupe qui est vissée sur un pas de vis solidaire du navire. Et le récepteur, lui, c'est un petit parallélépipède qui fait environ 20 cm sur 10 cm et 5 cm. Et 1 kilo. Mais il faut savoir qu'il y a 30 ans, les premiers récepteurs GPS, il fallait être deux personnes pour les transporter. Et le récepteur, plus l'antenne, plus les grosses batteries de voiture pour les alimenter, ça remplissait une grande voiture ou une fourgonnette. Et donc c'est assez impressionnant la miniaturisation qu'on a connue, donc à la fois sur des GPS grand public et aussi sur des GPS scientifiques qui aujourd'hui sont devenus très portables. Donc sur Tara, l'objectif de la... il y avait plusieurs raisons qui ont guidé pour cette installation d'un récepteur GPS. Je dirais que la première motivation, c'était la curiosité. De voir qu'est-ce qu'on va apprendre en faisant une acquisition de données très précises. On reviendra plus tard sur la question de précision. Toutes les secondes. Donc une position du navire toutes les secondes, avec, si possible, si on y arrive dans les calculs, une précision centimétrique. À ce moment-là, si on arrive à atteindre cette précision, on va pouvoir appréhender de nombreux phénomènes intéressants.
Comme quoi, par exemple ?
La houle, les variations de la houle en fonction de l'emplacement de la mer sur laquelle on se trouve, l'éventuel passage de vagues anormales. Ça peut être une vague de tsunami. Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il faut qu'il y ait un grand séisme et un tsunami. Mais il est intéressant de savoir si, avec des récepteurs GPS embarqués, on peut ou non voir passer des vagues de tsunami qui, elles, auraient une hauteur de, disons, 10 cm. Donc, 10 fois plus grand que la précision qu'on peut peut-être atteindre. Une autre, parmi les autres applications, il y a le lien avec l'altimétrie des océans qui est faite à partir des satellites. Donc plusieurs satellites mesurent la hauteur des océans avec des radars. Et ce qui est intéressant...
Et ça, avec le changement climatique, on nous dit que c'est devenu un sujet crucial.
Oui, exactement. Et donc le suivi du niveau des mers aujourd'hui se fait beaucoup avec des satellites dotés de systèmes radars altimétriques. Mais ça peut se faire aussi, ça se fait aussi avec des stations marégraphiques donc qui mesurent le niveau de la mer le long des côtes. Mais si vous mesurez le niveau de la mer le long des côtes, il faut vous assurer que la côte, elle, ne bouge pas pour des raisons tectoniques ou autres, ou pour votre bâtiment.
Là, c'est le géophysicien qui parle, bien sûr.
Et donc, vous avez, un mariage entre les mesures de géopositionnement, les mesures de niveau de la mer et des mesures d'altimétrie par satellite. Et c'est cette alchimie qui va nous apprendre des choses sur les variations du niveau des mers.
Et comment vous récupérez les données, Pierre Briolle ?
Alors, il y a plusieurs façons.
Une fois que Tara navigue dans l'océan Arctique, est-ce qu'il pense encore à vous et à vous transmettre les données qui sont récupérées par le GPS que vous avez installé 6 mois avant leur départ ?
Alors, dans les deux expéditions de Tara, c'était très rustique et efficace. C'est le commandant et l'équipage veillaient au bon fonctionnement du récepteur et vidaient le récepteur une fois par semaine. Et ça a très très bien marché comme ça. Maintenant, on pourrait faire de façon automatisée, voire du temps réel. Techniquement, tout ça est possible. Mais pour l'instant, on a souhaité, dans un premier temps, avoir les données à coup sûr. Donc on a choisi une méthode simple, mais qui a marché.
Et c'est l'essentiel. Thierry Jolivaud, qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'application qui fait que même quand on est perdu au milieu de l'Arctique, on peut suivre sa position à la seconde près? Vous qui avez expliqué notamment sur votre blog Monde Géonumérique qu'il y avait des effets très ambigus ou très ambivalents sur cette capacité à nous géolocaliser tous autant que nous sommes en temps réel.
Alors en fait, c'est quand même longtemps que les navigateurs disposent de systèmes, de balises, etc., pour se localiser avec différentes techniques. Et une des ruptures du point de vue sociétal, on va dire, c'est le fait que chacun ait des systèmes de localisation personnelle, portables. C'est ça qui ferait la rupture.
Donc la rupture, c'est le smartphone, en fait.
Alors, c'est une fausse rupture aussi, parce qu'il a fallu une miniaturisation importante, et il a fallu du temps, etc. Mais en effet, c'est quand... avant le smartphone, je pense que c'est le GPS de voiture, c'est quand même une première rupture. Et puis aussi le GPS de randonnée, qui sont des systèmes un peu différents, dans lesquels, d'ailleurs, les usages étaient variés, et dans lesquels on stockait pas forcément ces données, on n'était pas connecté à Internet. Donc il y a plusieurs, au niveau des usages, il y a plusieurs moments qui sont importants. Le dernier vraiment important, c'est en effet quand on a mis des GPS sur des smartphones et quand les smartphones ont permis de se connecter à Internet. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a eu des applications permettant, tout en étant sur Internet, d'utiliser la localisation. Et ça date d'une dizaine d'années, mais c'est l'ensemble. Et la géolocalisation, ça devrait caractériser ce phénomène-là, ce phénomène d'une connexion à Internet, localisée.
Je comprends. Alors, moi, ce que je trouve très frappant dans ce que vous avez dit tous les trois, c'est la notion de précision. Oui. Et cette notion de précision, elle va de pair, me semble-t-il, en tous les cas, dans la manière dont on peut se la représenter, avec celle de miniaturisation. Et comme vous le savez, et je pense qu'un certain nombre d'auditeurs le savent, l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, est en train, en tout cas en France, mais c'est peut-être aussi le cas de Thales ou d'autres industriels, de réfléchir à une voiture qui serait entièrement automatique et écoutée. On va entendre un extrait d'un reportage qui a été diffusé sur France Inter le 22 août 2014. Écoutez la précision qui est celle de la localisation.
Dans sa petite voiture rouge, Evangeline Pollard est certes assise à la place du conducteur, mais ce n'est pas la chercheuse de l'INRIA qui conduit.
Et là, voilà, on est parti.
Donc là, vous n'avez ni les mains sur le volant.
C'est conduite sans les mains et sans les pieds. Bon, je vous avoue que j'ai le pied quand même pas loin du frein.
Au cas où.
Mais le système est opérationnel et ce n'est pas moi qui conduis, c'est bien la machine.
Pour en arriver là, le véhicule de l'Institut de Recherche a été suréquipé.
La voiture va prendre la place du conducteur, donc de la même manière qu'un conducteur est doté de sens pour analyser ce qui se passe autour de lui, on a doté le véhicule de capteurs pour lui permettre d'observer son environnement. Donc on a deux lasers à l'avant qui vont servir à la détection d'obstacles. On a une caméra à l'avant qui va servir à la détection de lignes de marquage et qui va servir aussi à la classification des obstacles, donc savoir si c'est un piéton, un vélo, ce genre de choses. Et enfin, là on ne le voit pas, mais juste au-dessus, on a une antenne pour le GPS RTK. Donc c'est un GPS qui est un petit peu amélioré, qui va nous permettre d'obtenir une précision centimétrique.
Alors, Evangeline Pollard était interviewée par Hélène Chevalier, ma consoeur de France Inter. On nous parle d'un GPS amélioré qui vise une précision centimétrique. Ça veut dire, Pierre Spagnou, qu'on est encore loin d'avoir épuisé toutes les potentialités du GPS. Et comment on arrive à une telle précision ?
Ah, alors, donc il y a plusieurs par rapport au fonctionnement que j'ai décrit tout à l'heure, qui est le fonctionnement de base à partir des satellites, et qui fournit, disons, une précision, on va dire, de quelques mètres au mieux, en fonctionnement, on va dire, habituel. On a plusieurs façons d'améliorer cette précision. En particulier, il y a ce qui a été dit par Thierry sur le ce qu'on peut appeler le GPS augmenté, c'est-à-dire le fait d'aller chercher des informations, en particulier grâce au smartphone, qui est un objet hyper connecté. On va aller chercher sur Internet des informations complémentaires qui vont permettre en particulier d'accélérer la phase, comme on dit, de verrouillage sur les satellites en particulier.
Ça veut dire quoi, ça ?
C'est-à-dire qu'au départ, il faut qu'on sache avec suffisamment de précision où se trouvent les satellites sur lesquels qu'on va pouvoir voir de l'endroit où on se trouve. Et en particulier, il faut aussi connaître ce qu'on appelle les éphémérides, c'est-à-dire en fait les positions des satellites. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on cherche à déterminer l'intersection de la surface de sphère, il faut connaître non seulement le rayon des sphères, mais le centre des sphères, qui est la position de chaque satellite. Et pour cela, on a besoin de connaître, avec une très grande précision, en général même en dessous du mètre, la position de chaque satellite, valable pendant plusieurs heures. Donc ces infos-là sont transmises par les satellites de façon régulière, mais ça prend un peu de temps, alors qu'on peut les avoir beaucoup plus rapidement en allant les chercher sur Internet. Et donc avec le smartphone, ça ne pose aucun problème, puisqu'on a cette possibilité d'aller chercher, cette fois-ci là c'est un aller-retour de signal, là encore électromagnétique, qui va permettre d'aller chercher cette information. À condition de ne pas être perdu en pleine campagne, bien évidemment. Mais en tout cas, on a cette possibilité, GPS augmenté. Ensuite, il y a d'autres techniques comme le GPS différentiel, qui est très utilisé justement en géologie, qui permet d'atteindre des précisions encore meilleures que le centimètre, et qui va consister à, cette fois-ci, se servir d'une balise, en fait, donc d'une position de référence fixe, donc qui est connue avec une grande précision. Et là, on va travailler en quelque sorte en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va, grâce à cette référence, pouvoir déterminer quelles sont les erreurs, toutes les erreurs que l'on a, en particulier dans le temps d'émission envoyée par le satellite, enfin, qu'il faut corriger en réalité par rapport à ce temps d'émission, par exemple pour prendre en compte les retards de propagation à travers l'atmosphère, qui sont une des sources les plus importantes d'erreurs. Et donc tout ça, ça va permettre d'atteindre des précisions bien plus élevées.
Pierre Briolle, voilà, ce type de GPS augmenté sur vos terrains?
Oui, en fait, à tel point que quand je me suis exprimé tout à l'heure, d'emblée, j'ai pensé à ça. C'est-à-dire que effectivement, dans le signal GPS, vous avez la porteuse, comme les ondes radio là qui parviennent aux auditeurs, et vous avez ce qu'on appelle le code qui est à l'intérieur, donc le cri de chaque satellite. Et donc le positionnement, disons métrique, ne fait pas appel ou peu appel à la porteuse, alors qu'en revanche, le positionnement précis fait appel à la porteuse. Donc c'est plus compliqué au plan électronique, mais au final, c'est extrêmement précis. C'est précis à concurrence d'environ le vingtième de la longueur d'onde de la porteuse, et la longueur d'onde de la porteuse est en 20 cm. C'est comme ça qu'on arrive au centimètre. Mais pour arriver à ce centimètre-là, eh bien, il faut résoudre un certain nombre de difficultés. La première, c'est d'avoir, comme cela a été dit précédemment, une très bonne connaissance des orbites, et cette connaissance, de préférence, une connaissance en temps réel, si on veut faire du positionnement en temps réel. Et aujourd'hui, on parvient à un positionnement en temps réel, une connaissance en temps réel des orbites, qui est de l'ordre de 5 à 10 cm. Ça, c'est calculé dans des centres de calcul qui sont répartis sur la Terre, dans des centres de traitement. Et ce qui pourrait se faire très vite, si, par exemple sur la constellation Galiléo, c'est que des orbites très très précises, comme ça, soient diffusées par le système lui-même aux utilisateurs.
Et pourquoi ça ne l'est pas ?
Je pense que ça va l'être. En tout cas, ça va l'être pour des utilisateurs habilités. Voilà. Galiléo est un système assez complexe avec différents niveaux d'accès. Je suis pas certain que ça. Je connais pas les détails. Je suis pas certain que ça sera accessible à tous.
Thierry Jolivaux.
Oui, c'est peut-être que là, on peut mentionner quand même qu'il y a une dimension politique dans la disponibilité du signal, et que par exemple le GPS tel qu'on le connaît à l'heure actuelle avec une précision à 10 mètres, c'est le résultat quand même d'une décision politique du président des États-Unis Bill Clinton de faire baisser le brouillage, enfin la transformation du message qui s'appliquait et qui amenait la précision à 100 mètres, de décider qu'en fait il y avait plus un intérêt pour les États-Unis à développer toute une industrie autour justement des gestions de transport, la géolocalisation, plutôt que d'empêcher des ennemis potentiels de se localiser trop précisément. Que donc en fait, il y a quand même à un moment donné des enjeux économiques, sociaux et politiques qui sont pris en compte, qui tiennent compte bien entendu des dispositifs et des possibilités techniques, mais qui peuvent s'ajouter ou interagir avec.
Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez concrètement ressenti dans vos sphères respectives d'activité, Pierre Briolle et Pierre Spagnou, le moment où politiquement l'administration américaine a décidé de démocratiser finalement la technique du GPS en fait? Si on peut le résumer ainsi.
C'est certain que c'est ce qui a rendu possible tout un tas d'applications grand public, puisque jusque-là, effectivement, on avait une précision qui était pas extraordinaire, qui était peut-être 100 mètres, comme vous l'avez indiqué. Et effectivement, en 2000, on a eu cette décision. Alors, c'est lié aussi, cette décision, au fait que le système GPS, contrairement au futur système Galiléo européen...
Qui sera donc le GPS européen, voilà, qui est en train de se mettre en place.
Voilà, qui devrait être complètement opérationnel d'ici 2020, mais qui devrait commencer à pouvoir être utilisé avant. Et ce système GPS, il est toujours sous le contrôle de la défense américaine, alors que le système Galileo sera quand même civil dans sa structure.
Je vous propose à ce sujet, hein, on a avec Luc-Jean Reynaud, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France, on a isolé justement un petit reportage, un petit papier plutôt qui parle de Galileo, qui avait été diffusé le 21 octobre 2011 sur France Inter par Delphine Simon.
Au départ, ce n'était pas gagné. Les divisions entre Européens et les pièges des Américains ont bien failli avoir la peau de ce grand projet spatial. L'idée de concurrencer le GPS américain remonte à 1998, une initiative française. Elle déclenche immédiatement les tirs de barrage de l'administration Bush pour décourager l'Europe de se lancer dans l'aventure. L'argument de Washington est simple. Pourquoi investir dans un nouveau système de navigation alors que le GPS est mis à leur disposition gratuitement? Mais pour les Européens, l'enjeu est à la fois technique et stratégique. Avec une localisation d'un mètre, Galileo est tout simplement plus précis que le GPS, un système dont les Américains peuvent à tout moment interrompre le signal, voire le dégrader sans prévenir, comme ce fut le cas lors de la guerre du Golfe. Enfin, le GPS américain est avant tout un système militaire, c'est aussi le cas du GLONASS russe. Galileo est un système de navigation civile.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
C'est important, concrètement, le fait que l'origine d'une telle technologie soit dans un cas civil et dans l'autre cas militaire. Est-ce que ça change les applications scientifiques, par exemple, ou est-ce que vous avez le sentiment que ça peut aussi changer les applications économiques et sociales ? Pierre Briolle ?
Alors, pour nous... Il n'y a pas eu de discontinuité, il n'y a pas d'impact majeur.
Quand vous dites nous, c'est au CNRS.
Pour les applications scientifiques. Le fait que le système soit militaire ou pas n'a pas une très grande incidence, surtout parce que dans la plupart des applications, on fait des calculs en temps différé. On n'a pas besoin du temps réel. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Sur les volcans, par exemple, on peut avoir besoin du temps réel. Mais dans la plupart des cas... On fait les calculs. Après, on peut se faire nos propres calculs d'orbite très précises a posteriori. On peut aussi, disons, tenir compte des caractéristiques de brouillage, certaines caractéristiques de brouillage des récepteurs, on peut les traiter au cours des calculs. Donc on a finalement une continuité dans l'acquisition des données qu'on fait depuis maintenant 30 ans. Eh bien, elle s'enrichit maintenant, des nouvelles constellations, mais tout ça est très continu, et donc on peut combiner des données d'il y a 30 ans et des données d'aujourd'hui, et ça c'est extrêmement, extrêmement important.
Parce que... Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de la raison pour laquelle cette collecte de données par GPS a constitué, ou non, une avancée ou une grande utilité dans votre travail en géosciences ? Dans l'étude soit des séismes, soit de la tectonique des plaques, par exemple.
Oui, ben je vais prendre l'exemple des séismes. Le GPS nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les séismes. Parce que, petit à petit, on a déployé des réseaux de stations GPS autour des failles actives. Et donc, on a pu voir les déplacements qui se produisent à l'instant même des séismes.
Alors qu'avant, on les regardait ou on essayait de les calculer par satellite ?
Alors, ça fait plus de 100 ans... qu'on observe et on mesure des déformations liées au séisme, mais auparavant, on le faisait avec des méthodes de géodésie classiques, donc avec des théodolites qui mesurent des angles, avec des niveaux qui mesurent des différences d'altitude. Et ces appareils étaient très précis. Ils permettaient déjà d'appréhender les séismes, mais d'une manière locale. Et lorsque vous avez un séisme qui fait 50 km de dimension, enfin la faille, ou davantage, les méthodes terrestres deviennent extrêmement lourdes à mettre en œuvre, alors que les méthodes satellitaires, elles, sont plus commodes. Et donc le GPS a permis de faire des avancées dans la connaissance des séismes lorsqu'ils se produisent, mais, et là je pense que c'est encore plus important, dans la connaissance des phénomènes qui ont lieu avant et après les séismes. Donc les phénomènes de chargement, l'accumulation des contraintes dans la croûte terrestre qui va amener au séisme, ou les phénomènes qu'on appelle phénomènes de relaxation, qui sont des déformations du sol qui se produisent dans les années qui suivent un séisme et qui sont différentes des signaux qu'on enregistre avant et qui correspondent à des propriétés rhéologiques de l'intérieur de la Terre, de la croûte inférieure ou du manteau supérieur, qui ne sont pas simplement élastiques, mais qui sont également ductiles. Et donc aujourd'hui, grâce au GPS, on peut mesurer ces signaux transitoires et acquérir des informations nouvelles sur la viscosité du manteau supérieur. Et cette connaissance de la viscosité est très importante, par exemple, pour nous enseigner des choses sur la vitesse à laquelle une faille va pouvoir interagir avec une autre. Un séisme va pouvoir interagir avec un autre.
Vous pouvez nous donner un exemple concret ?
Ah ben, l'exemple le plus récent, c'est pour moi, c'est en Grèce. Le 17 novembre, on a eu un tremblement de terre dans l'ouest de la Grèce, sur l'île de Lefkada. Et les stations GPS permanentes qui étaient là ont enregistré le déplacement, 25 cm à une station et 15 à une autre. Et à partir de ces différents enregistrements, on a pu calculer l'emplacement de la faille, très précisément, et aussi la quantité de glissement sur la faille. Donc on a trouvé 1,44 m de glissement, plus ou moins 10 cm. Et ça, c'est une information qui provient essentiellement du GPS.
Et vous diriez que, parce que c'est évidemment la question qu'on se pose toujours dans la société civile et dans la société politique, est-ce que ça peut permettre de prévoir ou d'anticiper les séismes? Ou est-ce que ça, c'est justement, c'est une illusion à laquelle vous pensez qu'il ne faut surtout pas céder?
Je crois qu'aujourd'hui, la prévision des séismes, ça n'existe pas. Mais ce qui existe et qui se développe rapidement, enfin je l'espère, c'est la compréhension des séismes. Et un jour, cette compréhension conduira à la prévision, au moins dans certains cas au début. Et donc, les satellites, notamment le GPS, apportent des avancées extraordinaires. Je voudrais simplement citer un autre exemple qui, je crois, est important, c'est celui des séismes lents. Le GPS a permis de mettre en évidence des phénomènes qui étaient subodorés, il y a 30-40 ans, mais que maintenant on voit. C'est l'existence de séismes qui ne se produisent pas en quelques secondes, mais en quelques jours. Alors il y a des exemples aux Cascades, dans l'ouest des États-Unis, près de Seattle, au Mexique, près d'Acapulco, dans d'autres endroits, où on observe, grâce au GPS, des signaux transitoires qui donc ne durent pas quelques secondes, mais plusieurs jours, et qui sont, qu'on appelle des séismes lents, ce sont des glissements sur le plan de faille. Mais ils sont tellement lents qu'ils ne sont pas enregistrés par des sismomètres, et aussi qu'ils ne produisent pas de dégâts. Et évidemment, c'est important de savoir où est-ce qu'il y a des séismes lents. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Peut-être qu'il y en a plus que ce qu'on ne croit, et à ce moment-là, le risque sismique dans certains endroits peut-être sera révisé à la baisse. Mais il faut mesurer ça pour savoir.
Bien sûr. Alors, bon, j'espère qu'on a réussi à évoquer, évidemment, pas de manière exhaustive, mais un certain nombre d'applications qui montrent l'utilité, ou en tous les cas l'importance maintenant du GPS dans nos vies quotidiennes et dans la recherche. Et peut-être qu'on va pouvoir évoquer maintenant ce qui, sans doute, tient nos auditeurs en haleine depuis le début de cette émission, c'est-à-dire qu'est-ce que le GPS doit à Einstein et à la théorie de la relativité générale, puisque, je le rappelle, pour les auditeurs qui arriveraient en cours d'émission, l'émission de Planète Terre d'aujourd'hui s'inscrit à la fois dans une semaine de culture science qui est en écho au 100e anniversaire de la théorie de la relativité générale, et puis également une semaine où, sur tout France Culture, nous évoquons les héros et les héroïnes, et même parfois les super-héros et les super-héroïnes. Alors, s'agissant donc du lien entre le GPS et la théorie de la relativité générale, pourquoi est-il pertinent de dire, sans Einstein, pas de GPS, Pierre Spagnou?
Oui, donc là, il faut revenir, pour le comprendre, au fonctionnement à partir des satellites GPS, le fonctionnement que l'on a, par exemple, avec notre smartphone, pour la plupart des applications du smartphone. C'est-à-dire, je reviens sur la nécessité donc d'estimer la distance entre le satellite et le récepteur, chaque satellite et le récepteur. Et donc, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que, puisque cette estimation de distance repose sur le produit d'une vitesse très élevée, 300 000 km par seconde dans le vide, pour la lumière, et la durée du trajet, on voit que, en fait, si on fait une erreur de 3 milliardièmes de seconde sur le temps d'émission que nous envoie le satellite, on va faire une erreur à peu près d'un mètre sur l'estimation de la position. Donc cela, ça a deux conséquences. La première, c'est que ça montre qu'on a besoin d'horloges très précises, puisque la moindre erreur va se traduire sur une erreur en position, d'où la nécessité de disposer des meilleures horloges possibles, donc on dit, à bord des satellites. Ce sont les horloges atomiques qui vont, en général, se décaler à peu près de 4 milliardièmes de seconde au bout d'une journée. Donc, au moment où on les utilise, c'est déjà pas négligeable, c'est pour ça qu'on est obligé de les recaler régulièrement à partir de stations au sol. Plusieurs fois par jour, mais indépendamment, ça c'est, on reste encore ici dans un cadre classique. Ensuite, il y a la relativité. Pourquoi la relativité? Eh bien, précisément parce que le temps est au cœur du sujet et que, à partir de 1905, dans son célèbre article consacré à ce qui va devenir la relativité restreinte, Albert Einstein va proposer pour la première fois une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Il en est arrivé là, là on n'a pas le temps bien sûr de tout expliquer, mais il en est arrivé là en proposant une solution sur des phénomènes qu'on avait cherché à expliquer auparavant de façon différente concernant la lumière. Donc on n'arrivait pas à expliquer pourquoi, dans certaines circonstances, on n'arrivait pas à détecter des variations dans la vitesse de la lumière due au mouvement de la Terre autour du Soleil. On aurait dû, dans le cadre classique, observer ces variations, et il n'en a rien été. Et Einstein, le premier à proposer une solution à la fois simple et révolutionnaire, donc on peut peut-être qualifier de génial, puisque c'est peut-être la définition de ce qui est génial, simple et révolutionnaire. C'est plus simple d'une certaine façon que ce qui était proposé par ses prédécesseurs, qui cherchaient en fait à expliquer ces variations de la vitesse de la lumière comme étant réelles, mais compensées exactement par d'autres effets. Donc il l'interprétait comme purement apparente, alors qu'Einstein, lui, va en fait faire deux choses. Il va réaffirmer le principe de relativité qu'avait déjà énoncé Galilée au début des années 1600, qui nous dit qu'en fait, toutes les lois physiques doivent rester valables dans une certaine classe de référentiel, on va dire en gros les uns en mouvement rectiligne uniforme par rapport aux autres. Il va réaffirmer ce principe pour toutes les lois de la physique, y compris pour l'électromagnétisme, et il va également poser autre chose, l'existence d'une vitesse limite. Et c'est cette existence d'une vitesse limite qui va entraîner cette révolution conceptuelle autour du temps, puisque il va en déduire de nouvelles transformations de coordonnées lorsqu'on passe d'un certain référentiel à un autre pour décrire un événement à l'aide de trois coordonnées d'espace et une de temps. Les nouvelles transformations de coordonnées impliquent qu'on ne peut plus concevoir le temps comme une dimension dissociée des dimensions spatiales, et que donc c'est un mélange des deux qu'il faut utiliser désormais. Et en particulier, la conséquence fondamentale, c'est ce que on appelle la multiplicité des temps propres, c'est-à-dire le fait que le temps cumulé, enregistré par une horloge supposée parfaite, va pouvoir être, a priori, va être différent d'une horloge à l'autre. Alors, pour cela...
Alors que pourtant, on est dans le même espace.
Voilà, exactement. Et alors là, c'est ça la grande révolution qui est certainement le plus difficile à faire comprendre.
Donc on va avoir deux horloges qui fonctionnent parfaitement et voilà, qui, au bout d'un moment, n'indiquent plus la même heure.
Alors c'est ça qu'il faut bien voir. C'est-à-dire qu'on prend deux horloges côte à côte, on suppose qu'elles ont un rythme identique, qu'elles sont parfaitement synchronisées et qu'elles ne se dérèglent jamais. Si je prends l'une des deux horloges, que je lui fais parcourir une courbe fermée, que je la réunis, je la rejoins, et donc je la compare à l'horloge restée sur place, eh bien, la relativité nous dit qu'il va y avoir un décalage, ce qui est totalement incompréhensible en physique classique, puisque comment deux horloges pourraient-elles se décaler si elles ont un rythme identique et qu'elles ne se dérèglent jamais? Eh bien, tout simplement, nous dit Einstein, parce que c'est le temps propre qu'elles ont mesuré chacune d'elles qui était différent. Elles ont chacune, fidèlement, puisqu'elles sont parfaites, mesuré un temps différent. Et donc c'est bien sur des... Il faut bien distinguer, ça n'a rien à voir avec un dérèglement, hein, cette prédiction relativiste, c'est vraiment la multiplicité des temps propres qu'il faut admettre. Et qui est bien sûr, de façon plus spectaculaire, représentée sous la forme de ce qu'on appelle le paradoxe, entre guillemets, des jumeaux, de Langevin, parce que c'est lui le premier qui a imaginé une situation qui serait perceptible pour des êtres humains. Et donc là, si au lieu des horloges, on utilise deux jumeaux, eh bien le jumeau voyageur va revenir avec un âge différent du jumeau resté sur place.
Comme on le voit très bien dans le film Interstellar.
Voilà, Interstellar.
Qui a été réalisé récemment, où le héros, après avoir été très très loin, quand il revient, il a
voilà.
Alors, peu changé
d'accord,
d'âge.
Et, oui. Alors, dans Interstellar, ça utilise en fait une autre prédiction dont on va parler, qui est en fait vraiment spécifique à la relativité générale, qui est en fait liée à la gravitation. Ça, c'est l'autre aspect. C'est une autre multiplicité des temps propres que Einstein va prédire ensuite, dès 1907, qui concerne la gravitation. C'est-à-dire qu'il va montrer, en cherchant à étendre la relativité restreinte, qui s'intéresse uniquement en fait au mouvement, il va là démontrer que une horloge, selon qu'elle est placée plus ou moins haut dans un champ gravitationnel, va également mesurer un temps propre différent d'une horloge placée à un endroit différent dans ce champ gravitationnel. Donc ça, c'est l'autre prédiction relativiste qu'il va faire précisément. Alors là, en utilisant de nouveau un résultat de Galilée, qui va exploiter de façon très intelligente, c'est le principe qui va transformer un principe d'équivalence. Selon la loi de la chute des corps établie par Galilée dans les années 1600, nous savons que n'importe quel corps, indépendamment de sa composition et de sa nature, va être accéléré de la même façon dans le vide. Donc ça veut dire que si on lâche deux corps d'une même hauteur dans le vide, ils vont aller exactement à la même vitesse. Ce qui fait que si on regarde un ascenseur en chute libre, qu'on lâche des objets dans cet ascenseur, eh bien on est en apesanteur, hein, puisque tous les objets tombent à la même vitesse que nous. Et de là, il va pouvoir exploiter cette loi du décor en généralisant celle-ci en un principe dit d'équivalence qui lui permet de dire que finalement, ce que l'on observe dans un champ gravitationnel est équivalent localement à ce que l'on observerait dans un référentiel uniformément accéléré. Et ça, ça lui donne le pont qu'il cherchait entre la gravitation et la relativité restreinte, puisqu'il va pouvoir dire l'accélération, je sais la décrire dans le cadre de la nouvelle théorie de l'espace et du temps, qui était la relativité restreinte, qui s'intéressait uniquement au mouvement, et la gravitation, je vais pouvoir, en considérant qu'elle est équivalente, finalement, de ce point de vue-là, de l'accélération, l'interpréter et pouvoir prédire de nouveaux effets, et en particulier donc des effets aussi de multiplicité des temps propres.
Et donc, alors, comment est-ce qu'on passe au GPS?
Voilà, comment est-ce qu'on passe au GPS? Donc, qu'est-ce que se passe-t-il? En fait, les horloges à bord des satellites GPS, toutes précises qu'elles soient, vont donc se décaler du fait des effets relativistes, puisqu'elles vont mesurer un temps propre différent des horloges à la surface de la Terre. Et donc, en particulier, l'horloge du récepteur GPS. Et donc, on va avoir deux effets. L'effet dû à la vitesse qui est déjà prédit par la relativité restreinte, puisque les satellites vont à une vitesse moyenne de 14 000 km à l'heure. On va donc avoir un effet dû à la vitesse qui se traduit dans ce cas-là par le fait que les horloges à bord des satellites GPS retardent par rapport aux horloges à la surface de la Terre. Et on a un autre effet qui joue en sens contraire et qui lie à la gravitation et qui fait que les horloges qui se situent à une altitude beaucoup plus haute que les horloges à la surface de la Terre, qui sont donc à une altitude de 20 200 km en moyenne, eh bien vont elles avancer par rapport aux horloges à la surface de la Terre. Et donc le cumul des deux effets en fait se traduit par une avance des horloges dans la mesure où c'est l'effet gravitationnel à cette altitude qui l'emporte. Ceci dit en passant, par exemple, à bord de la station spatiale, c'est l'inverse, c'est l'effet dû à la vitesse qui l'emporte, ce qui fait que les horloges à bord de la station spatiale retardent par rapport aux horloges de la surface de la Terre. Il y a une altitude où, en fait, les deux effets se compensent exactement, qui est environ un peu au-dessus de 3000 km. Donc c'est intéressant de le remarquer. Par exemple, le jumeau Scott Kelly, qui est en ce moment à bord de la station spatiale internationale et qui va passer 342 jours à bord de la station spatiale, quand il reviendra sur Terre, il aura enregistré à son horloge propre une durée inférieure à peu près un centième de seconde par rapport à celle de son jumeau Mark resté au sol. Alors pour les horloges à bord des satellites, on a un effet similaire et là, elles avancent. Et donc, si on ne fait rien, alors elles avancent de combien? En fait, si on calcule, on voit que c'est un retard énorme. Pourquoi? Parce que si ce retard, il correspond. Elles vont avancer, ces horloges à bord des satellites GPS, donc de 38 microsecondes par jour. Au bout d'une journée, si on ne fait rien, elles vont être en avance de 38 microsecondes par rapport aux horloges à la surface de la Terre. 38 microsecondes multipliées par la vitesse de la lumière, ça nous fait à peu près 12 km d'erreur. Ce qui veut dire que si on ne faisait rien, si on ne s'en souciait pas, au bout d'une journée, on commettrait une erreur dans l'estimation de la position d'environ 12 km. Et donc, évidemment, on ne peut pas ne pas s'en préoccuper. Et comment fait-on? Alors, historiquement, au début, lors des premiers lancements des satellites GPS, ce qu'on faisait, c'est que, en fait, on décalait la fréquence des horloges au césium atomique avant le lancement, de façon à les faire marcher un tout petit peu plus lentement que les horloges au sol. Et cela permettait de compenser exactement l'effet relativiste une fois en orbite.
On compensait par avance.
Voilà, on compensait par avance. Alors, on compensait en fait l'effet global constant, c'est-à-dire en supposant bien sûr que les orbites sont circulaires et que donc l'altitude ne varie pas, la vitesse non plus. En réalité, il y a un petit effet dû au fait que les satellites GPS suivent des trajectoires légèrement elliptiques, donc leur vitesse et leur altitude varient légèrement, et donc on a un petit terme correctif, donc lié à l'excentricité des orbites, qu'il faut prendre en compte, et là qui est variable suivant le satellite. Donc c'est en fait un terme correctif qui figure dans le message que nous envoie le satellite et que donc le récepteur GPS a la charge de prendre en compte. Donc on a vraiment cette obligation. De cette façon-là, c'est cette façon-là qu'on arrive à cette précision pour les applications standards qui est de l'ordre de 10 mètres.
Alors, ce que vous venez de nous expliquer, Pierre Spagnou, me fait penser à un problème qui est celui de l'accès libre à l'exactitude des données. Parce que finalement, il y a sans doute moyen, du coup, d'induire les utilisateurs du GPS en erreur, ou au contraire, de faire en sorte que l'ensemble des récepteurs et des utilisateurs puissent être dans une, on peut le dire, dans la véracité. Et ce problème n'est pas qu'un problème, on va dire, spéculatif, puisque, comme on va l'entendre dans les propos de Gaël Musquet, qui présidait OpenStreetMap France lorsqu'il a été interviewé dans Culture Monde, sur France Culture, en décembre 2012, il y a un certain nombre de pays et de régimes qui estiment nécessaire de censurer le GPS.
Cuba, par exemple, les GPS sont interdits. Embargo et puis question gouvernementale. On a des pays qui ont récemment fait leur révolution, donc l'Égypte notamment, où les GPS étaient interdits avant la révolution, même si ça évolue. Ça allait même très loin, puisque il était au niveau des constructeurs de téléphones, la puce GPS était désactivée systématiquement. Donc les constructeurs de téléphones avaient passé des accords avec certains États totalitaires pour pouvoir désactiver automatiquement les puces GPS des smartphones. Et puis on a des pays qui sont en conflit, où il y a des conflits, donc l'Afghanistan, où on a parfois des restrictions liées à la sécurité pour les actions militaires en cours, où il y a des possibilités très faibles en fait de cartographier avec ces moyens-là, et où ça devient dangereux pour les contributeurs d'utiliser ces moyens. J'ai vu des remontées d'informations sur la Jordanie, par exemple, où des contributeurs ont été inquiétés sur le fait qu'ils veulent cartographier. On a des ONG aussi, il y a notamment ACTED, qui est actuellement déployé sur des terrains, des conflits assez sévères, qui ne peut pas utiliser de GPS ou qui utilise des GPS, mais vraiment sous le manteau pour pouvoir cartographier finement les territoires.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Thierry Joliveau, cet écho qu'il me paraît pouvoir être fait entre, disons, le fait que les dirigeants ont la capacité de nous donner ou de ne pas nous donner des informations exactes sur la localisation, d'une part, et puis d'autre part, le fait que ça peut être un objet de censure, un objet politique très très fort.
A priori, c'est assez classique de tout ce qui a rapport à la cartographie depuis des siècles, pour ne pas dire depuis l'origine. Mais elle a une large partie de sa logique vient des militaires et de l'art de la guerre. Et donc, le GPS aussi. Donc, il est assez logique que comme la carte, il y a beaucoup de dictatures dans lesquelles les cartes topographiques ne sont pas accessibles à la population, dans lesquelles on n'a pas le droit de sortir ou d'entrer avec une carte à l'aéroport. Alors c'est plus ou moins facile à appliquer, mais ça l'a été appliqué pendant un moment. En URSS, pendant la guerre froide, il n'était absolument pas question d'avoir des cartes topographiques précises. C'est bien pour ça que les Américains, pendant les années 50 et 60, ont essayé d'élaborer des systèmes pour pouvoir faire une cartographie à partir de la télédétection et à partir des satellites. Toute une partie des outils qu'on utilise à l'heure actuelle sont nés des technologies mises en œuvre et inventées pendant la guerre froide pour pouvoir espionner et cartographier les pays. Donc moi, ce ne sont pas des choses qui sont surprenantes. C'est peut-être un peu plus compliqué quand même, parce que le signal GPS est un signal qui vient, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qui vient du haut et qui est en permanence, et donc il faut absolument interdire. Mais comme on interdisait les cartes, il faut interdire les puces de téléphone, interdire les smartphones. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très matériel. On n'est pas dans la guerre des étoiles. Là, on est vraiment dans fouiller les gens à l'aéroport quand ils arrivent.
Mais à contrario, ça montre à quel point la géonumérisation de la vie, voire du monde, est devenue quelque chose non seulement de quotidien, mais finalement de central dans la vie des gens. Parce que empêcher les gens d'accéder à des cartes, bon, encore faut-il que les cartes soient faites, mais empêcher les gens d'accéder à leur propre GPS ou lorsqu'ils vont acheter un téléphone, ça veut dire que on donne le sentiment, en tous les cas, ne donne-t-on pas le sentiment de les priver de quelque chose de beaucoup plus essentiel que de les priver simplement d'une carte, si j'ose dire.
Oui, peut-être. Alors, c'est parce qu'en effet, on a intégré et que c'est intégré beaucoup plus dans des actes du quotidien. Et il y a une partie aussi implicite, c'est-à-dire que c'est le GPS sert de base aux services géolocalisés. Et en fait, c'est ces services qu'on utilise beaucoup dans la vie quotidienne. C'est moins le GPS en tant que tel que les services qui sont construits autour du signal, etc., pour se repérer. Voilà. Et donc, c'est parce qu'on a intégré dans notre habitus et dans nos manières de vivre ces applications que d'un seul coup le signal GPS devient important. Mais à la limite, il est un petit peu justement oublié derrière, parce qu'il est derrière l'application. En fait, la carte, c'est un petit peu la surface. Et puis derrière, vous avez tout un système industriel, une infrastructure complexe. Il y a le GPS, mais aussi il y a la production des données, il y a la cartographie, il y a la mise à jour, etc. Et qui est quelque chose de très très important. Et si je peux boucler sur la question de la relativité, c'est quand même en 1905 et... C'est le moment où les problèmes de synchronisation du temps sont devenus importants pour des raisons industrielles. Je veux dire, avec les trains qui doivent arriver à l'heure, on a besoin d'une heure qui est nationale à partir de 1850 et pas un grand nombre d'heures locales. Il faut arriver à se positionner avec un méridien d'origine. Et par exemple, le point carré... qu'on a souvent à tort mis en concurrence avec Einstein par rapport à la relativité, il était responsable du bureau des longitudes et il travaillait sur les mêmes problèmes. Le problème, c'était qu'est-ce que c'est que la simultanéité et comment on peut en rendre compte, sachant qu'on a le télégraphe et que le télégraphe est déjà permet d'avoir des messages instantanés.
Donc pour vous, on serait en fait plutôt dans une avec le GPS, il n'y aurait pas de rupture à la fois économique, sociale et technologique. On est dans la continuité, on est dans une différence de degré plus que de nature par rapport au début du XXe siècle.
Si, il y a des ruptures liées au numérique, c'est assez clair. Mais on est dans une continuité en rapport avec le temps et l'espace pour construire un espace-temps commun. Enfin, on a l'impression que les sociétés ont eu besoin de construire un espace-temps commun et que cet espace-temps commun, elles les ont construits avec les outils technologiques qu'elles avaient à disposition à une époque donnée.
Pierre Briolle.
Oui, je voudrais quitter temporairement le segment spatial pour parler d'une autre question qui est liée à tout ça. C'est la définition des systèmes de référence au sol. Donc, quel système de coordonnées utilisons-nous ? Autrefois, chaque pays avait son système de coordonnées et quand on franchissait la frontière, il pouvait y avoir des discontinuités. D'ailleurs, quand on a creusé le tunnel sous la Manche, il a fallu s'accorder entre Angleterre et France pour être bien aligné. Sinon, il y avait au moins un mètre d'écart. Et donc, on l'a fait grâce au GPS. Et donc, aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits, à la fois au niveau des constellations de satellites et au niveau des États, pour progresser vers un système de coordonnées unifié qui sera utilisé par les différents pays pour exprimer des coordonnées. Ça, c'est important, parce qu'à ce moment-là, dans votre téléphone portable, si vous avez le droit de l'utiliser, eh bien, vous aurez des coordonnées valables dans tous les pays, parce que tous les pays seront dans le même système de coordonnées, comme tous les pays, aujourd'hui, sont dans le même système horaire, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est d'ailleurs Einstein qui a contribué au fait qu'il y ait unité de l'heure. Donc maintenant, on a besoin de progresser vers l'unité des coordonnées. Et ça, c'est un effort qui est un effort un petit peu longue durée, qui suppose un accord donc sur la définition, et puis aussi des réseaux, des systèmes qui permettent d'assurer dans la durée ce système unifié. Donc ça, c'est un effort en cours, et cette année, il y a eu une résolution adoptée aux Nations Unies en février 2015 sur cette question-là, qui traite de repères de référence géodésique mondiale pour le développement durable.
Comme quoi l'ONU ne s'occupe pas que du climat, elle s'occupe aussi de géologie et de géosciences. Et ça sera ma dernière question, Pierre Spagnou. Quel développement envisagez-vous pour le GPS dans les années, voire dans les décennies à venir ? Puisque, Thierry Joly vous disait, il y a à la fois rupture, mais en même temps, une certaine continuité par rapport à un grand mouvement qui s'est ouvert au début du siècle.
Alors, comme toujours, il y a ce qu'on peut raisonnablement envisager, puis il y a ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que avec le futur système européen déjà Galileo, on va avoir une interopérabilité entre le système GPS et le système Galileo, ce qui veut dire que un même récepteur GPS pourra à la fois utiliser des signaux provenant de satellites GPS et de satellites Galileo. Et donc, comme on a vu, le système Galileo sera un petit peu plus précis que le système GPS. Tout ça réuni va nous permettre d'avoir une précision encore plus grande. Donc, forcément, va conduire à des applications intéressantes. Donc là, je ne les ai pas forcément en tête. Mais en tout cas, forcément, ça va donner lieu... voilà, puisqu'on va, il faut bien voir que ce système GPS, donc, outre le fait qu'il va être complété par d'autres systèmes connexes, il va aussi continuer aussi d'être amélioré. C'est-à-dire que les satellites qu'on envoie régulièrement, ils remplacent les précédents et bien sûr, ils ont des fonctionnalités nouvelles.
De plus en plus performants. Bon, ben, en tous les cas, merci beaucoup Pierre Spagnou, Thierry Joliveau et Pierre Briolle pour vos précieux éclairages. Je précise que les liens vers vos sites internet et le nom de vos publications sont accessibles depuis la page Planète Terre et également depuis la page Héros et Héroïnes, les deux étant sur le site de France Culture. C'était donc sans Einstein, pas de GPS. La semaine prochaine, mercredi 30, la dernière émission de Planète Terre en 2015 évoquera l'aventure au 21e siècle. Puis, en 2016, Planète Terre entraînera son nouvel horaire, toujours le mercredi, mais de 16h à 16h56, au sein des 5 émissions de la tranche Culture Science, qui permutera donc son horaire. On a beaucoup parlé d'horaire avec Nouvelle Vague de Marie Richeux. Merci beaucoup à Luc Jean Reynaud, Alexandre Dang, Catherine Madure et la documentation sonore. Merci également à Bruno Gagné-Fontani qui nous a rejoint. Cette émission, comme les précédentes, est en ligne 1000 jours et en podcast 1 an.